de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma et puis pour parler de films qui sont alors présents dans les salles mais aussi sur les plateformes car eh bien, c'est un peu la tendance maintenant, il y a des réalisateurs plutôt valeureux, connus, hein, qui se retrouvent sur les plateformes, Guillaume.
Ben oui, on le rend bien comme en mal, hein. On a le dernier Shane Black, Play Dirty, et on a le dernier Paul Greengrass, The Lost Bus.
Et puis toi, Sophia, un film français?
Oui, Météore, donc de Claude Lepape et Hubert Charuel.
Et puis moi, je vous parlerai de Nouvelle Vague de Richard Linklater, film qui était en compétition à Cannes, un film vraiment fabuleux sur le tournage d'À bout de souffle, et ce sera l'occasion de jouer à un blind test autour de la filmographie de Jean-Luc Godard, parce qu'on n'aura plus trop l'occasion eh bien, de le faire, hein, étant donné que le cinéaste nous a quittés il y a déjà 2-3 ans, je ne sais plus. Allez, c'est Cinérama qui débute avec trois amis d'enfance en Haute-Marne, entre rêves brisés et réalité toxique. Nous parlons de Météore.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinérama.
C'est vrai, oui ou non?
Après Petit Paysan, il y a 8 ans déjà, où il portait son regard sur une France rurale en crise à travers le destin d'un éleveur, Hubert Charuel revient sur ses terres de Haute-Marne, mais cette fois en zone urbaine, et il n'est pas seul à la mise en scène, il partage la réalisation avec Claude Lepape, déjà complice de scénario sur son premier film. Ensemble, ils signent Météore, sélectionné à Cannes, une errance entre tribunal, béton irradié, rêve impossible d'évasion. Un film porté par Paul Kircher, comète montante du cinéma français, hein, qui continue de composer une galerie de personnages, d'anges déchus. Après Le règne animal, notamment en 2023, ou Leurs enfants après eux, l'année dernière. Le voilà dans un rôle de frère d'échec, d'éternel adolescent abîmé. Et bien que Météore capte plutôt bien, par instant, quelque chose du vertige de notre époque et de ses marges, il se dilue assez vite derrière une épaisseur d'écran de fumée, un style qui, en cherchant à rendre compte de l'opacité du réel, finit par occulter un peu le cœur même de ce qu'il filme.
L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir.
Quoi ?
Tout commence par une nuit d'errance, une voiture brinque-ballante, un chat kidnappé, deux copains dépassés par leurs propres bêtises. Mika et Dan, amis d'enfance, se retrouvent embarqués devant la justice après ce vol absurde. Pour éviter la prison, ils ont 6 mois pour prouver leur bonne volonté et trouver un travail. Mika, incarné par Paul Kircher, tente tant bien que mal de se reprendre en main. Il enchaîne un CDD chez Burger King, quelques piges dans un journal local et s'accroche à l'idée qu'un ailleurs reste possible, peut-être à La Réunion. Dan, lui, joué par Idir Azoughli, ne travaille pas, boit trop, fume trop et reçoit même un diagnostic médical qui ne fait qu'accélérer son autodestruction. Leur salut, ou du moins leur sursis, passe par Tony, un ancien pote devenu entrepreneur dans le nucléaire. Les voilà employés sur un chantier d'enfouissement des déchets au milieu de blocs de béton gris, austères, labyrinthiques. Travailler à enterrer les restes du monde moderne comme une métaphore de leur propre survie. Mais derrière cette perspective, ce sont surtout leurs liens qui vacillent, l'amitié, ciment fragile de leur duo devient progressivement un poids, un rapport déséquilibré où l'un tente de sauver l'autre au risque de s'effondrer à son tour.
Autre chose.
Arrête.
Une personne vous accuse du vol de son chat.
Mec, qu'est-ce que tu fais?
Dis-moi. Il est extrêmement moche, moi. Impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi.
Il y a un collier GPS en dessous.
Jette-le par la fenêtre.
Attention là.
T'as encore des poils là, regarde sur ton blouson.
Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux, je suis blanc vénitien.
Vous comprenez la gravité des faits? Vous pouvez partir en détention, là, aujourd'hui, maintenant.
Mais non, moi, non, je vais pas en prison.
Visuellement, Météore joue l'opacité. Quelques séquences sont marquantes, hein, notamment sur le chantier nucléaire. Les blocs de béton géométriques se transforment en un labyrinthe écrasant, étouffant peu à peu l'humour et la légèreté, hein, qui accompagnaient le début du film. Une scène fait d'ailleurs disparaître Dan en arrière-plan qui chute d'un tapis roulant défectueux. évacuer du cadre sans que personne ne s'en aperçoive. Tout est là, la métaphore d'un système qui se débarrasse des plus fragiles au lieu de les soutenir, en les reléguant à la marge comme des déchets à enfouir. Mais voilà, le film délaisse la charge politique ou la critique sociale pour se recentrer sur la relation entre un trio d'amis et surtout un binôme d'inséparables. Et dans cette dynamique, Dan est peu à peu réduit au rôle du boulet qui empêche Mika d'avancer. Les deux comédiens, Idir Azougli et Paul Kircher, qui portent ce buddy movie, jouent à vif, jouent cassos avec leur corps fragile et gueule abîmée, et donnent à leur personnage une intensité qui dépasse parfois les limites du scénario. Ils composent une amitié fracassée qui ne tient que par l'illusion de plans sur la comète. Retrouver le chat Maine Coon qu'ils ont perdu, élucider la disparition de la carpe Moby Dick aperçue dans un étang pour empocher le pactole, ou partir à la Réunion pour s'occuper de chiens errants secourus dans un chenil. Autant de rêves trop grands, trop fragiles, qui entrent en collision avec l'étau du quotidien. Tony, leur pote du nucléaire, le leur dit d'ailleurs assez frontalement, ça c'est du vrai argent, pas vos plans sur la comète.
Vous avez des hobbies ?
Oh, moi j'aime les animaux. On va partir à la Réunion s'occuper des chiens dans un chenil.
On a besoin d'un contrat de travail.
Tu penses que tu pourrais nous prendre avec toi sur les chantiers ?
D'analyse toxicologique propre, d'accord ? Vous avez 6 mois pour faire vos preuves.
Bienvenue, Agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
On prend pas de radiation là.
Ça craint rien.
Tu vois rien dans la tête des gens, tu vois rien. Tu vaux zéro.
Faut que tu t'engages à plus faire travailler Daniel.
Tu crois que ça va aider Daniel, ça ?
Ce qui va l'aider, c'est qu'on se barre d'ici.
Vous allez jamais vous barrer d'ici, tu le sais très bien.
T'es jaloux de nous, en fait.
Tu vois, je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super.
En choisissant d'éclipser la critique du nucléaire et la violence du système pour se concentrer sur une amitié qui finit par tirer l'un des deux vers le bas, Meteor livre une sentence amère, désabusée. Là où dans un film comme Vingt Dieux, la solidarité et l'amitié permettaient à ces personnages de s'élever face aux difficultés. Si Meteor nous fait entrevoir par moments la possibilité d'un cinéma subversif capable de transformer la diagonale du vide en terrain de lutte, eh bien ces éclats se dissipent derrière un récit qui enferme un peu ses héros dans une destinée de loser. Mais quand même, avec l'énergie qui habite ces comédiens, le récit laisse entrevoir de l'espoir et n'enterre pas ces jeunes hommes avec les déchets de cette poubelle nucléaire, mais les laisse plutôt un peu briller dans l'atmosphère comme de véritables météores.
Ce film Météor est en salle depuis le 8 octobre. Il y a 20 ans, il réalisait le savoureux Kiss Kiss Bang Bang. C'est aussi le scénariste de L'Arme Fatale. Nous parlons du dernier film de Shane Black, Play Dirty.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Eh oui, ce n'est pas un petit film qui arrive sur le ring de Prime Video, mais la rencontre de deux légendes du polar et aussi donc du cinéma. Rien que ça. Alors à ma gauche, il y a Shane Black, scénariste de génie ayant redéfini le cinéma hard-boiled et d'action des années 80, avec les scripts de L'Arme Fatale de Richard Donner, du Dernier Samaritain de Tony Scott ou encore d'Au revoir à jamais de Rémy Harlin. Bah, il a su assez brillamment passer au poste de réalisateur avec, oh surprise, un polar, Kiss Kiss Bang Bang en 2005, et a transformé l'essai avec un autre polar avec The Nice Guys en 2016. Alors entre temps, il s'est un peu perdu en réalisant Iron Man 3 en 2013 en suivant son ami Robert Downey Jr., déjà à l'affiche de Kiss Kiss Bang Bang, et The Predator en 2018, parce qu'il avait un second rôle savoureux dans le cultissime premier film. Bon, on a tous besoin d'argent, et au fond, on se rend compte que monter un projet 100% Shane Black dans un Hollywood qui a tendance à aseptiser, c'est aussi dur que ses personnages. Justement, à ma droite, la deuxième légende. Parker, un criminel taciturne créé par Donald Westlake et qui aura eu de prestigieuses adaptations au cinéma, dont le révolutionnaire Le Point de non-retour de John Boorman en 68, date importante bien sûr, ou encore l'excellent Payback de Brian Helgeland en 99, mais en fait chapeauté et bien terminé par son producteur et acteur principal, un certain Tough Guy du nom de Mel Gibson.
On a comme un problème. Je cherche une fille.
Il s'agit d'une poursuite galante.
Elle a tué tous mes gars après le dernier hold-up. Faut que je lui parle.
Tu veux lui parler ou c'est une façon de parler ? Souvent, quand t'as parlé aux gens, les gens ils se retrouvent en chambre froide.
Alors c'est toujours peu ou prou la même histoire. Parker fait un casse avec une bande bien rodée à l'exercice, se fait doubler et laisser pour mort, mais revient chercher son dû et va faire le travail de manière froide et méticuleuse, peu importe les obstacles sur sa route. Et pourtant, il y en a un de taille. L'organisation, une sorte de conglomérat de criminels réunis sous la houlette d'un grand chef, à la manière d'une entreprise derrière un grand patron, véritable pieuvre aux ressources colossales, mais pas aussi solide que la volonté de Parker de récupérer ce qu'il estime lui revenir de droit. Alors l'organisation l'implication n'est jamais loin hein, lorsque Parker doit retrouver les coupables, et bien souvent son implication justifie une montée en puissance des péripéties jusqu'à un final explosif. Alors c'est le cas hein, de Play Dirty, hein, que l'on pourrait traduire par « jouer salement », ce qui est bien vu, hein, vu qu'il est question de voleurs s'alliant à des voleurs, cherchant à voler des voleurs pour le compte d'autres voleurs. Alors détail amusant et symbolique, la version originale du script de L'Arme Fatale 2, écrite par Shane Black et Warren Murphy, s'intitulait Play Dirty. Le scénario était plus sombre, plus cru et totalement différent du film final puisque Martin Riggs, joué par Mel Gibson, devait mourir et transformer Danny Glover en arme fatale numéro 2. Alors malgré le rejet du studio, Black considère toujours son scénario pour L'Arme Fatale 2 comme son meilleur travail et le plus intense qu'il ait jamais écrit, et on devine hein, quelques répercussions de ton dans ce fameux Play Dirty.
Mais t'es qui ?
Il est où mon fric ?
T'es dingue ou quoi ? J'avais besoin de lui vivant ! Ça devait être un gros coup, jusqu'à ce que tu me butes. Tu l'as tué une deuxième fois ?
C'est la dernière, promis. Tiens !
Oh, t'es un pote German, merci mais non merci !
Car Play Dirty est bel et bien hein, du pur Shane Black, hein, même s'il n'est pas sans défaut. Alors le film n'hésite pas à sacrifier un important personnage, et Parker lui-même restera fidèle à sa propre conception de la justice jusqu'à la toute fin. Alors dans le rôle-titre, hein, Mark Wahlberg n'est pas le plus éclatant des interprètes, il faut bien le dire, hein, mais il est admirablement secondé par l'excellent Lucky Stanfield, avec qui il ressuscite les grandeurs du buddy movie comme L'Arme Fatale. Tiens donc, il retrouve le génial Tony Shalhoub, avec qui il avait participé au succès de Pain and Gain de Michael Bay. Et en faisant basculer hein, le polar vers le film révolutionnaire, on pourrait se dire que Shane Black voit un peu trop grand. Hein, et il est vrai que certaines scènes n'ont pas forcément le budget de leur démesure, mais encore une fois, c'est totalement dans l'esprit de ces scripts à multiples niveaux des années 80 et 90. Et si la démesure est déjà présente dans Au revoir à jamais, par exemple, avait une plus belle patine visuelle il y a 30 ans, déjà, ce ton insolent et irrévérencieux fait un bien fou à une époque où les cinémas et plateformes n'ont jamais été plus lénifiants. On peut dire que Black Lives Matter, n'est-ce pas Vincent ?
Play Dirty, donc n'est pas dans les salles de cinéma, il est présent sur Prime Video, c'est un film que j'ai vu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Alors je trouve qu'en revanche, les scènes d'action, il y a beaucoup d'ajouts, d'effets visuels qui peuvent être un peu gênants, mais ce que j'ai bien aimé, c'est le ton de la comédie, parce que enfin, voilà, c'est un film qui est plutôt drôle, et c'est un film aussi qui joue sur alors, la comédie au sens premier, c'est-à-dire qu'il y a un comédien, qui alors c'est quelqu'un qui a un théâtre, le pote de...
Oui.
Voilà.
La
de Mark Wahlberg à un théâtre qui n'a pas de spectateur, enfin bon bref, et il est souvent question de jouer un rôle, et ça je trouve que c'est très bien employé, et y compris dans la mise en scène, puisque parfois on voit une séquence qu'on revoit en fait après sous un autre angle, et on s'aperçoit qu'il y a eu un jeu, parce que effectivement le personnage de Mark Wahlberg réalise des plans mais vraiment au millimètre.
Et c'est typique voilà. de l'écriture de Shane Black, qui adore la mise en abîme, et voire même souvent côté méta, hein, c'est pas pour rien qu'il avait été embauché pour écrire Last Action Hero avec Schwarzenegger.
Ouais. En tout cas, c'est un film voilà, très très drôle, un film véritablement d'action, avec un héros burné, mais c'est Play Dirty disponible sur Prime Video. Richard Linklater rend hommage à la nouvelle vague en recréant le tournage d'À bout de souffle. Nous parlons de nouvelle vague.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Un tournage.
Je marche dans la rue. Ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la poste. Et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard.
Nouvelle vague. Un film de Richard Linklater. Un film de cinéma.
Dans le redoutable, Michel Hazanavicius nous montrait un Godard remettant en question son rôle d'artiste après le tournage de La Chinoise et sa rencontre avec les mouvements révolutionnaires de mai 68. Il le faisait en pastichant le style godardien avec les ruptures de ton, les citations ou apartés, les jeux de montage. Et pour incarner Godard, eh bien, il y avait Louis Garrel. 8 ans après, on reprend du Godard avec Nouvelle Vague, tournée par un réalisateur américain cette fois-ci, Richard Linklater. Celui-ci a formé un autre projet, nous faire partager le tournage d'À bout de souffle, le premier film du cinéaste qu'il a vu au début des années 80. Et pour nous raconter cette histoire, il n'a pas pris des acteurs connus, non. Godard est ici joué par Guillaume Marbeck, qu'on a vu nulle part ailleurs et qui est parvenu à prendre la voix, l'intonation et la gestuelle du cinéaste franco-suisse. Une vraie réussite, comme tout le film.
Une ingénue, des stars, de l'argent. Une belle américaine et une belle américaine. Rossellini.
Oh bah merci pour la balade, Jean-Luc.
Melville.
On contourne ça comme une vraie interview.
Bogart. Truffaut.
Bon, je voulais voir si tout se passait bien.
De l'aventure. une cascade. Des policiers. Un flipper. Un café. New York Herald
Tribune. Du pur génie.
Et on entend que la bande-annonce reprend les bandes-annonces qu'on pouvait entendre des films de Godard. Pour nous immerger dans le tournage d'À bout de souffle, Linklater a fait le choix du noir et blanc et de la reconstitution. Alors tout y est, les coiffures, les vêtements, les bagnoles et la précision. Il y a d'abord l'avant. Cela commence par la description de ce que pouvait être la nouvelle vague avec l'équipe des Cahiers du cinéma. Et puis Godard, qui n'est pas bien content d'être à 30 ans, le seul à ne pas avoir fait son film. Ce sera donc À bout de souffle, un scénario qui tient, alors j'imagine en une page, un tournage en équipe légère, tourné dans Paris. Quasiment pas de dialogue, puisque tout sera fait en post-synchronisation. Et pour incarner les deux personnages, eh bien, d'un côté, il y a Jen Seberg, qu'il faut convaincre, et puis Jean-Paul Belmondo, jeune comédien prometteur. Le résultat, eh bien, on le connaît, un film comme il n'y en avait nul autre à l'époque. Des travelling, des faux raccords, des jump cuts, et le Herald Tribune a fourgué aux passants.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, on a Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc. Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
On n'aura jamais Jean Seberg.
I never even said that I'd do the picture.
Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne, hein.
Ce que nous montre Linklater au-delà d'un biopic cherchant à tout prix la reconstitution fidèle, eh bien c'est de restituer la fougue et l'énergie de l'époque. C'est aussi montrer comment ce film qui a abouti à un chef-d'œuvre aurait pu être un gros raté. Il y a Jen Seberg qui veut s'en aller car elle ne comprend pas ce qu'elle tourne, Belmondo qui s'amuse de la situation, la script qui est désespérée qu'elle a beau en fait annoncer les faux raccords, eh bien personne ne tient compte de son avis. Et puis il y a aussi le rapport avec les collègues cinéastes et le producteur avec qui eh bien les relations sont plutôt tendues. Alors, c'est un tournage léger qui flotte. Certains jours, Godard décide de ne pas tourner car il n'a pas d'idée ou voilà, il ne le sent pas, donc il ne le fait pas. À mesure que le film avance, Godard livre ce qu'il attend d'un film. Il ne cesse de nous parler de cinéma, de l'exigence de celui-ci pour qui veut en devenir un artiste. Godard n'est pas juste un faiseur d'images, c'est un expérimentateur, un découvreur. Tout cela est formidablement montré dans Nouvelle Vague. La relation avec son chef opérateur, Coutard, tourne au running gag quasiment. Le technicien, lui, livrant régulièrement des satours de Jean-Luc et semblant souvent satisfait de l'unique prise en magasin. Formellement, eh bien, Nouvelle Vague s'inspire du style godardien et y place quelque chose que j'aurais plutôt vu chez d'ailleurs un Peter Watkins avec des personnages qui sont présents dans le cadre et dont le nom est révélé par des sous-titres mais qui n'interviennent pas dans le film, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dialogue et voilà, ils ne font pas plus de choses que d'être présents. Linklater nous indique qu'ils ont occupé une place dans la trajectoire de Godard mais qu'il n'en fera rien, faute de temps et puis surtout, eh bien, que ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est le tournage d'À bout de souffle. Alors, c'est le cas de Jean Cocteau, qu'on voit par exemple, tandis que Chabrol, Truffaut, Bresson ou Rossellini ont eu des dialogues.
Chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte et le film qu'on sort.
Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle.
S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée.
Linklater a l'avantage de filmer autant un film qui se fait, les idées qui le sous-tend et le dynamisent, et puis les hommes et femmes qui s'en emparent. C'est un film d'une rare vivacité et intelligence qui est sur les écrans depuis le 8 octobre et qui peut eh bien, contenter alors, non seulement évidemment les cinéphiles, ceux qui connaissent un peu Godard et puis qui aiment le cinéma, et puis eh bien, peut-être même les autres. Ce film nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie, non pas de Richard Linklater, on aurait pu, mais on va jouer avec la filmographie de Jean-Luc Godard. 5 films, 5 extraits, le premier.
Pourquoi t'as l'air triste ?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments.
C'est pas vrai, il y a des idées dans les sentiments.
Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence.
Comment c'est facile, c'est trouvé.
C'est Pierrot Le Fou.
Eh oui, un film de 1965. Un homme en fuite retrouve une ancienne amante et part avec elle dans une cavale à travers la France, mêlant crime, passion et réflexion sur la société. 1,3 million d'entrées en France hein, pour ce film. Deuxième extrait, nous cherchons un film de Jean-Luc Godard.
Allez, Pépé, dépêche-toi. Faut aller te coucher maintenant. Allez, gentil. Mange ta soupe.
Allez, Pépé, couchez. Ça, il mentira pas avant d'avoir dit sa phrase.
Allez, dis ta phrase. M'énerve pas, hein.
Alors, Pépé, tu l'as dit ta phrase?
En principe, les pauvres ont raison.
Voilà, il a dit sa phrase.
Vous avez 400 coups?
Ah non. Ah ben non, ça c'est Truffaut. Non. Alors c'est un film du début des années 80. On entend Isabelle Huppert. Il y a Michel Piccoli aussi qui joue. Alors il joue un patron avec une. Il a tout le temps une rose dans la bouche. Et Isabelle Huppert joue une syndicaliste et donc elle est avec son pépé qui dit tout le temps sa phrase. En principe, les pauvres ont raison.
Non, pas du tout. 80.
Non, ouais. 80, ouais. C'est le film Passion. Film formidable, à Zurich, des artistes et des producteurs de cinéma se confrontent à l'amour, au désir et à l'art dans un jeu de passion personnelle et de créativité visuelle. Seulement 207 000 entrées en France pour ce film plutôt mineur de Jean-Luc Godard. Allez, troisième extrait.
Bon, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse. Je suis responsable. Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis.
Bah c'est trouvé.
Avec Guillaume, on l'a trouvé. Oui, c'est de Vivre concert. Sa vie.
Oui. Vivre sa vie, encore Anna Karina, encore un film formidable de 1962, cette fois-ci en 12 tableaux, l'histoire de Nana, jeune vendeuse désargentée qui rêve de devenir actrice à Paris et en vient peu à peu à se livrer à la prostitution. Il y a vraiment des scènes remarquables et bon, qui n'avaient jamais été vues au cinéma à cette époque. 462 000 entrées en France pour ce film. Nouvel extrait, nous cherchons un film de Jean-Luc Godard.
Tu m'aimes, Guillaume?
Oui, bien sûr, je t'aime.
Parce que moi, j'ai bien réfléchi, je ne t'aime plus.
Allez, qu'est-ce qui se passe, Véronique?
J'aime plus ton visage, j'aime plus tes yeux, j'aime plus ta bouche. J'aime plus la couleur de tes chandails, puis tu m'ennuies, tu peux pas savoir.
Mais Véronique, qu'est-ce qui se passe?
Je ne t'aime plus.
Mais je comprends pas.
Tu vas comprendre.
Court extrait, trouvé.
C'est La Chinoise ?
Oui, film de 1967, réalisé un an avant les événements de mai 68. La Chinoise est considérée donc comme un film un peu prophétique. Un groupe d'étudiants parisiens adhère au maoïsme et prépare des actions révolutionnaires entre idéalisme politique et débat intellectuel sur la société. 337 000 entrées en France pour ce film. Dernier extrait avec un film très connu.
Des fois, t'es vraiment con.
Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires ?
Ça me va mal. Écoute, trou du cul, putain, merde, nom de Dieu, piège à con, saloperie, bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal ?
Oh, mais tout va bien. C'est trouvé.
Et mon blind test, qu'est-ce qui te plaît, mon blind test? C'est le mépris.
Eh oui. Film de 1963, donc avec Brigitte Bardot, qui donne la réplique à Piccoli, encore une fois. Un scénariste se dispute avec sa femme alors qu'il travaille sur l'adaptation d'un film d'Homère à Rome entre tension amoureuse et dilemme artistique. Voilà, ainsi s'achève donc ce blind test consacré à Jean-Luc Godard, puisqu'un film est consacré à son immense succès, son premier film, À bout de souffle. Et ce film, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Un chauffeur de bus et une enseignante sauvent 22 enfants d'un incendie dévastateur. Mais oui, nous parlons de The Last Bus.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Alors déjà que j'allais dire que Paul Greengrass a du mal à se réinventer, si tu en plus tu dis tout de suite la fin, Vincent, ça ne va pas aller. Alors oui, bah, Paul Greengrass a du mal à se réinventer. Hein. News of the World, hein, ou La Mission, bah, que j'avais chroniqué il y a quelques années déjà, ici, bah, n'a laissé aucun souvenir aux spectateurs, et il fallait bien revenir en force hein, avec un projet spectaculaire. Alors le contraire aurait été un comble hein, pour celui qui a aidé un temps hein, à pérenniser au cinéma l'utilisation de la shaky cam, soit une action filmée caméra branle-ballante à l'épaule, dans les années 2000 avec La Mort dans la Peau, et La Vengeance dans la Peau, hein, s'inspirant de l'énergie folle hein, de la mise en scène de Stephen Hawking pour la série 24. Alors en quête de visibilité, donc, il a attrapé le bus des plateformes au vol et a signé pour Apple TV hein, The Lost Bus, au cœur des flammes, inspiré d'une histoire vraie.
C'est qu'un peu de broussailles, d'accord ? Allez, venez tous par ici !
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Marie.
Kevin.
Les enfants, voici notre chauffeur de bus, Kevin.
Je suis pas certain que vous compreniez l'urgence de la situation.
Avancez un par un, doucement et en silence. C'est presque fini. On devrait y être d'ici 10 minutes.
Alors, The Lost Bus adapte des événements survenus au cours des incendies qui ont ravagé la Californie en 2018. Un conducteur de bus scolaire, joué par Matthew McConaughey, passe une journée pourrie. Son père vient de mourir, son épouse l'a quitté et les relations avec son fils sont désastreuses. Alors, pour ne rien améliorer au tableau, hein, des incendies se répandent et prennent au piège la population de la petite ville de Paradise. Le chauffeur, en compagnie d'une institutrice, hein, va tout faire pour amener les enfants installés dans son bus, hein, loin du danger. Alors, il y a du drame, du danger, des larmes, du spectaculaire, il y a un peu tout dans The Lost Bus. Hein. Parce qu'après une première demi-heure d'introduction, le long métrage prend la forme d'un quasi huis clos, hein, filmé depuis l'intérieur du bus. Hein. Et seul compte les deux adultes hein, qui comprennent rapidement l'urgence de la situation et doivent tout faire pour éviter, entre autres, de créer un mouvement de panique auprès des enfants. Alors, nous voyons la formule qui se dessine hein, est plutôt efficace au possible sur papier. Hein. Il y a une pincée de film catastrophe à la Tour Infernale, mais ici dans un bus. Il y a une pincée de film d'action à la Speed, hein, ici dans un bus. Et une pincée de drame humain intimiste comme on avait pu le voir dans En plein feu de Quentin Reno avec André Dussolier et Alex Lust. Mais moi j'ai envie de dire un peu plus réussi, mais on est d'accord tous les deux, Vincent. La mise en scène, hein, si particulière de Paul Greengrass, hein, qu'on retrouve jusque dans Captain Phillips, par exemple, ça ne nous a pas forcément très convaincus.
Non, y a effectivement, je trouve que ça obstrue l'image complètement parce qu'on est, pris dans un feu. Alors, il essaie de montrer ça, qu'on est captif finalement de toutes ces flammes qui arrivent de toutes parts, mais on est aussi captif de ce bus, on est dans ce bus longtemps avec les enfants, mais on ne voit rien, on ne comprend rien. Enfin, c'est très, très compliqué. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de clarté dans la mise en scène.
Mais je parlais de manque de renouvellement, je pense qu'il a essayé de refaire un peu à plus petite échelle un film comme Vol 93 qui avait bien marché, où on suivait ce fameux huis clos où des gens enfermés dans l'avion étaient prisonniers terroristes qui allaient s'écraser sur le World Trade Center. Oui.
Donc c'est en tout cas disponible sur la plateforme Apple Plus. Gabi et sa grand-mère partent en road trip vers San Francisco. Nous parlons de Gabi et la Maison Magique.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Attachez vos ceintures, les gamichas, on y va.
Here we go!
Et oui, c'est bientôt les vacances. Fabriquer un long métrage suite au succès d'une série animée, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce fut le cas pour Pat Patrouille, Miraculous dernièrement. Et voici maintenant qu'arrive sur les écrans la formule, le long métrage de Gabi et la Maison Magique, qui a déjà vécu 11 saisons sur Netflix, mais aussi depuis 2023 sur Gulli.
Ma coiffure, ma fourrure, mon allure.
Une seconde, je retire ce que j'ai dit, j'ai l'air chabuleuse.
Alors c'est DreamWorks qui en a la charge, mais il n'est pas question ici d'originalité et de mêler les parents au plaisir des enfants, comme c'est possible avec Le Chapeauté, Dogman ou encore Dragon. Hein. La série est tellement orientée enfant et plutôt jeune fille qu'il est difficile de prendre beaucoup de plaisir à cette aventure qui voit la maison magique des Gabichas achetée lors d'un vide-grenier par une extravagante entrepreneuse spécialisée dans la litière avec des paillettes. Les enjeux sont d'une simplicité enfantine. Gabi va devoir se propulser dans le monde des Gabichas avec sa grand-mère pour faire entendre raison à un nounours qui a été délaissé par sa propriétaire qui, elle, a grandi. La question se pose, peut-on toujours rester enfant ? Il y a quelques bons trait d'humour, en revanche, ça reste un peu DreamWorks, et les enfants surtout sont ravis, voilà, un peu moins, mais en tout cas ce film est présent sur les écrans depuis le 8 octobre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Alors, la semaine prochaine, on se retrouve toujours pour chroniquer des films. Ce seront lesquels ?
Ben moi, je vais vous parler d'une grosse sortie. C'est le troisième volume de Tron, qui n'a malheureusement pas eu d'avant-première. Donc, ce sera la semaine prochaine.
Quant à moi, j'ai vraiment hâte de vous parler de The Chronology of Water, le film de Kristen Stewart.
Eh oui, vu à Cannes. À la semaine prochaine.